L'idée d'embarquer avec mon grand frère me consolait pourtant fort, tout en me causant aussi une sorte d'inquiétude. Du plus loin que je me reporte à mes souvenirs d'enfance, il avait été gentil pour moi, et je le tenais pour le plus chic type du monde. À juste titre d'ailleurs. Jamais bateau de commerce n'eut meilleur officier. C'était un beau garçon, fort, droit, tout allait de soleil, avec des cheveux bruns ondulés et un œil d'aigle. Magnifique, je vous dis. Il y avait des années qu'on ne s'était vu, et cette fois-ci, bien qu'en Angleterre depuis 3 semaines, il ne s'était pas montré à la maison. Il passait ses jours de liberté dans un coin du Surrey, où il faisait la cour à Maggie Colchester, la nièce du vieux Colchester. Le père de la jeune fille, vieil ami de notre propre paternel, travaillait dans les sucres, et Charlie avait trouvé dans sa maison un second foyer. Je me demandais ce que mon grand frère allait penser de moi. Il y avait sur son visage une sorte de sévérité qui ne le quittait jamais, même au cours d'équipées un peu folles. Il m'accueillit avec un grand éclat de rire. L'idée de m'avoir comme camarade semblait lui faire l'effet de la plus belle des plaisanteries. Il y avait 10 ans de différence entre nous, et sans doute me voyait-il encore en tablier. J'avais 4 ans à peine quand il était parti en mer pour la première fois. Je fus surpris de son exubérance. « Maintenant, nous allons voir ce que tu as dans le ventre, » cria-t-il. Et, me prenant par les épaules, il m'allongea des bourrades dans les côtes en me poussant sur sa couchette. « Assieds-toi, Ned. Je suis heureux de t'avoir sous mes ordres. Je te donnerai le dernier coup de fion, mon jeune officier, si tu vaux la peine qu'on s'occupe de toi. Et, pour commencer, mets-toi bien dans la tête que nous n'allons pas laisser cette fois-ci la brute tuer personne. Nous lui riverons son clou. » Je vis que cette pensée lui tenait à cœur. Il avait un air grave pour parler du navire, et me dit qu'il faudrait veiller à ne pas nous laisser prendre le cours par cette sale brute et ses maudites fantaisies. Il me fit tout un cours de manœuvre à l'usage spécial de la famille Apps. Après quoi, changeant de ton, il se mit à bavarder à tort et à travers, et à conter des histoires absurdes et si drôles que les côtes me faisaient mal de rire. Je sentais bien que sa gaieté était un peu inhabituelle, et ne pouvait l'attribuer tout à fait à ma présence. Mais je n'aurais pas rêvé, bien entendu, de lui demander la cause d'un tel entrain. J'avais du respect pour mon grand frère, je vous l'affirme. D'ailleurs, je fus éclairé 1 ou 2 jours plus tard, quand j'appris que Miss Maggie Colchester devait faire partie du voyage. Son oncle le lui offrait pour raison de santé. Je ne sais pas d'ailleurs ce qui pouvait clocher dans sa santé. Elle avait un teint superbe et une belle masse de cheveux blonds. Elle ne craignait vent ni marée, pluie ni embrun ni soleil. C'était une gentille fille, aux yeux bleus, une fille de la bonne espèce, bien que son impertinence avec mon frère m'épouvantât. J'avais toujours peur que cela finît par une vilaine querelle. Pourtant, il n'arriva rien de décisif avant la fin de notre première semaine à Sydney. Un jour, pendant le dîner des hommes, Charlie passa la tête par la porte de ma cabine, où je fumais en paix, allongé sur ma couchette. « Viens à terre avec moi, Ned, » me dit-il, de son ton bref. Je sautai sur mes pieds pour le suivre par la coupée et jusqu'au haut de George Street. Il marchait à pas de géant, et je trottais hors d'haleine à son côté. Il faisait mortellement chaud. « Où diable me mènes-tu si vite, Charlie ? » pris-je enfin le courage de demander. « Ici, » dit-il. Ici, c'était dans une bijouterie. Je ne pouvais imaginer ce qu'il voulait y faire et croyais à quelque folle lubie. Mais me mettant sous le nez 3 bagues qui paraissaient bien menues dans sa grande main brune, « Pour Maggie, laquelle » grogna-t-il. Je restai tout décontenancé. Je ne pus prononcer une parole et me contentais de désigner celle qui brillait le plus avec des pierres blanches et bleues. Il la fourra dans la poche de son gilet, allongea une poignée de souverains et bondit dans la rue. En arrivant à bord, j'étais époumonné. « Félicitations, mon vieux, » haletais-je. Il me flanqua une grande tape sur le dos. « Tu donneras les ordres au maître d'équipage quand les hommes remonteront, » dit-il. « Moi, cet après-midi, j'ai campo. » Il disparut un instant, puis sortit bientôt de la grande cabine avec Maggie. Ils s'en allèrent tous deux par la coupée, au vu et au su de tout l'équipage, sous le soleil aveuglant et les flots de poussière qui volaient dans le ciel torride. Ils rentrèrent quelques heures plus tard avec un air très sage, et sans la moindre notion apparente des endroits où ils avaient pu aller. Du moins est-ce ce qu'ils répondirent tous deux à Mrs. Colchester à l'heure du thé. J'aurais voulu que vous l'entendiez attraper Charlie avec sa voix de vieux cocher de nuit. Idiotie, ils ne savent pas où ils ont été. En voilà des histoires. Vous avez fait trotter cette fille-là à lui user les jambes. Tâchez de ne pas recommencer, hein? C'est étonnant ce que Charlie pouvait avoir de patience avec cette vieille peste. Je ne l'ai entendu m'en parler qu'une fois. « Je suis rudement content, me souffla-t-il, qu'elle soit seulement par alliance la tante de Maggie. Ce n'est pas une parenté, cela. Je crois aussi qu'il laissait Maggie en faire un peu trop à sa tête. Elle sautillait d'un bout à l'autre du navire avec sa jupe blanche de yachting et un béret rouge qui la faisait ressembler à un oiseau brillant sur un arbre mort. Les vieux loups de mer échangeaient des sourires en la voyant approcher et voulaient lui montrer à faire des nœuds et des épissures. Je crois qu'elle les aimait bien, par considération pour Charlie, sans doute. Vous imaginez qu'on n'ouvrait jamais la bouche à bord sur les propensions diaboliques de notre maudit bateau. Un jour seulement, au retour, Charlie déclara, par mégarde, que nous allions pour une fois ramener l'équipage en entier. Le capitaine prit un air gêné, et sa stupide femme à langue de vipère attrapa Charlie comme s'il avait dit une inconvenance. J'en étais confondu. Et quant à Maggie, parfaitement mystifiée, elle ouvrait tout grand ses yeux bleus. Naturellement, le lendemain, elle me tira les vers du nez. C'était une petite personne à qui il n'était pas facile de mentir. « Quelle horreur ! » fit-elle d'un ton grave. « Tous ces pauvres gens, je suis heureuse que le voyage tire à sa fin. Je ne vais plus avoir un instant de tranquillité sur le compte de Charlie maintenant. » Je lui affirmai qu'elle n'avait rien à craindre de ce côté. Il aurait fallu plus de malice encore que ce bateau-là n'en avait pour trouver en défaut un marin comme Charlie. Et elle en convint avec moi. Le lendemain, le remorqueur nous prenait à Dungeness. Quand l'ossière fut fixée, Charlie se frotta les mains et me dit à mi-voix « Nous l'avons eu cette fois, Neddy. » « On le dirait, » répondis-je en riant. Il faisait un temps superbe et la mer était unie comme une mare. Nous remontâmes la rivière sans l'ombre d'un accroc. Sauf au moment où, en face de Holehaven, la brute fit une brusque embardée et faillit éventrer un chaland ancré à côté du chenal. Mais je me tenais à l'arrière, l'œil à la barre, et elle ne me prit pas en défaut. Charlie monta sur la dunette, l'air soucieux. « Nous l'avons échappé belle, » fit-il. « Pas de danger, Charlie, » répondis-je gaiement. « Tu l'as maté. » Nous devions remonter droit au bassin. Le pilote de la Tamise nous accosta au-dessous de Gravesend, et les premiers mots que je lui entendis prononcer furent « Vous feriez bien de rentrer tout de suite votre ancre de bâbord, monsieur. » On avait exécuté la manœuvre quand je passai à l'avant. J'y trouvais Maggie qui s'amusait du mouvement du fleuve. Je la priai de s'en aller à l'arrière, et naturellement, elle ne tint aucun compte de mes paroles. Alors Charlie, qui avait fort affaire avec la timonerie, lui cria de sa plus grosse voix « Sortez du gaillard d'avant, Maggie, vous gênez la manœuvre. » Pour toute réponse, elle lui adressa une grimace, et je vis mon pauvre frère se détourner pour dissimuler un sourire. Elle était rouge d'émotion de revoir son pays, et ses yeux semblaient lancer des étincelles électriques, tandis qu'elle regardait le fleuve. Un charbonnier vint virer devant nous, et notre remorqueur n'eut que le temps de stopper pour éviter de lui entrer en plein dedans. En un instant, comme il arrive toujours, tous les bateaux du bief parurent s'emmêler en une inextricable confusion. Une goélette et une cache s'offrirent d'une petite collision juste au milieu du chenal. C'était un spectacle intéressant, et notre remorqueur restait immobile. Tout autre navire que la brute aurait consenti à courir droit sur son air pendant 2 minutes, mais allait donc lui demander cela. Son élan soudain brisé, elle partit à la dérive et entraîna son remorqueur. À un quart de mille plus bas, j'aperçus un groupe de caboteurs à l'ancre et je jugeais bon d'avertir le pilote. « Si vous la laissez descendre jusque là-bas, lui dis-je tranquillement, elle va réduire en miettes quelques-uns de ses bateaux sans que nous puissions la retenir. » « Comme si je ne la connaissais pas !» s'écria-t-il en tapant du pied avec une véritable fureur. Et il se mit à faire signe au remorqueur de nous redresser au plus vite. Il sifflait comme un possédé en agitant le bras vers bâbord, et nous vîmes le mécanicien du remorqueur remettre sa machine en marche. Les pales battaient l'eau, mais c'est comme si on avait tiré sur un roc. Le petit vapeur ne pouvait pas faire bouger d'un pouce notre maudit navire. Le pilote se remit à siffler et agiter le bras. Nous voyons les roues du remorqueur tourner de plus en plus vite en avant de notre étrave. Pendant une minute, remorqueur et navire restèrent immobiles, puis tout à coup, l'effroyable tension que cette sale brute à cœur de pierre faisait subir à tout fit sauter net la bitte de remorque. L'ossière lâcha, en arrachant l'un après l'autre, comme des bâtons de cire à cacheter, les étançons de fer du bassingage. C'est alors seulement que j'aperçus Baggy, qui, pour mieux voir par-dessus nos têtes, s'était perché sur l'ancre de bâbord, posé à plat sur le gaillard d'avant. On l'avait amené sur son bâti de bois dur, puis on n'avait plus eu le temps de s'en occuper. Elle était d'ailleurs fort bien là pour entrer au bassin. Mais je vis tout de suite que dans une seconde, la remorque allait passer sous sa patte. Le cœur me monta à la gorge, non sans m'avoir laissé crier pourtant « Sautez de cette ancre !» Je n'eus pas le temps de dire son nom. Je ne pense pas que Maggie m'ait entendu du tout. Le premier choc de l'ossière la renversa. Rapide comme l'éclair, elle bondit sur ses pieds, mais elle se trouvait du mauvais côté. J'entendis un raclement atroce. L'ancre se renversait, se soulevait comme une chose vivante. Son gros bras attrapa brutalement Maggie à la taille, parut la serrer dans une effroyable étreinte et se précipita avec elle par-dessus bord dans un affreux vacarme de ferraille, suivi de coups sourds qui secouèrent le bateau d'un bout à l'autre parce que la bosse de boue avait résisté. « Quelle horreur ! » m'écriai-je. Pendant des années, j'ai vu en rêve des ancres se jeter sur des jeunes filles, fit l'étranger d'un air un peu égaré. Il frissonna. Charlie avait plongé, avec un cri pitoyable, au moment même où Maggie disparaissait. Mais, Seigneur, il ne vit pas même un reflet de son béret rouge dans l'eau. Rien, rien. En un instant, nous avions une demi-douzaine de canots autour de nous, et on tira mon pauvre frère de l'eau. Avec le maître d'équipage et le charpentier, je mouillai précipitamment la seconde ancre, et nous pûmes faire tête tant bien que mal. Le pilote était affolé. Il arpentait le gaillard d'avant, se tordait les mains et grommelait entre ses dents « Voilà qu'elle tue des femmes maintenant, des femmes !» Il n'y eut pas moyen d'en tirer autre chose. Le crépuscule tombait, puis ce fut la nuit, une nuit de poids. Je sondais l'ombre des yeux lorsque j'entendis un long cri lugubre. « Oh, du navire !» Deux bateliers de Gravesend nous abordèrent. Ils avaient une lanterne dans leur bateau et, longeant notre flanc, se halèrent sans mot dire jusqu'à l'échelle. Je vis dans la nappe de lumière une masse de beaux cheveux blonds dénoués. Il frissonna de nouveau. Le jusant avait emporté le cadavre de la pauvre Maggie qui s'était engagée sous une grosse bouée de corps morts, expliqua-t-il. Je me glissai à l'arrière et lançai une fusée pour avertir ceux qui cherchaient encore. Après quoi, filant à l'avant comme un chien galeux, je passai la nuit sur l'emplanture du Beaupré pour me trouver aussi loin que possible du chemin de Charlie. « Pauvre garçon » murmurai-je. « Oui, pauvre garçon » répéta-t-il d'un air rêveur. Cette brute n'avait pas voulu se laisser frustrer de sa proie par lui, pas même par lui. Mais le lendemain, il l'amena vivement au dock. Ah oui, nous n'avions pas échangé une parole, pas même un coup d'œil. Je n'osais pas le regarder. Quand la dernière amarre eut été fixée, il porta les mains à sa tête et baissa les yeux, comme s'il eût cherché à se rappeler quelque chose. Sur le pont principal, les hommes attendaient les paroles qui terminent le voyage. Peut-être était-ce cela qu'il cherchait. Je dis à sa place, « Ça va bien, les enfants. » Je n'ai jamais vu d'équipage quitter aussi tranquillement un navire. Les hommes se glissaient l'un après l'autre par la coupée et prenaient garde de ne pas cogner trop fort leur coffre de mer. Ils jetaient les yeux de notre côté, mais aucun n'eut le courage de venir, selon la coutume, serrer la main du second. Je le suivais pas à pas sur le bateau où nous ne rencontrions plus âme qui vive, car le vieux gardien s'était enfermé dans la cuisine dont il avait verrouillé les deux portes. Tout à coup, mon pauvre Charlie murmure d'une voix brisée, Je n'ai plus rien à faire ici, et descend sur le quai. Il remonte les docks, en franchit la porte, et, m'ayant toujours sur ses talons, se dirige vers le quartier de la Tour. Il prenait pension d'habitude chez une bonne vieille logeuse du square d'Amérique pour n'être pas loin de son travail. Brusquement, il s'arrête court, fait demi-tour et revient droit sur moi. « Ned, me dit-il, je vais à la maison. » J'eus la chance d'apercevoir une voiture où je pus l'installer juste à temps. Ses jambes ne le soutenaient plus. Dans le vestibule, chez nous, il tomba sur une chaise et je n'oublierai jamais la stupeur ahurie des visages que nos parents penchaient sur lui. Il ne comprenait pas ce qui avait pu lui arriver, et je dus balbutier entre mes larmes « Maggie s'est noyée hier soir dans la Tamise. » Ma mère poussa un petit cri. Mon père nous regardait tour à tour, comme s'il avait voulu comparer nos visages, car Dieu sait que Charlie ne se ressemblait plus du tout. Personne ne bougeait, quand le pauvre garçon, levant lentement sa grande main brune à sa gorge, arracha d'un seul coup col, chemise, gilet, en les réduisant en loques. Une vraie ruine, une épave humaine. Mon père et moi le transportâmes tant bien que mal dans sa chambre, et maman faillit se tuer en le soignant d'une fièvre cérébrale. L'homme me fit un signe significatif. Ah, il n'y avait rien à faire de cette brute. Elle avait un démon dans le corps. « Qu'est devenu votre frère ? » demandai-je, m'attendant à apprendre sa mort. Mais non, il commandait un bon vapeur sur les côtes de Chine et ne rentrait plus jamais au pays. Jamin poussa un gros soupir et jugea son mouchoir assez sec pour l'appliquer tendrement contre son pauvre nez rouge. « C'était une bête vorace, » reprit l'homme au complet de drap. Le vieux Colchester mit les pieds dans le plat et donna sa démission. « Eh bien, le croiriez-vous ? » Apps et fils lui écrivirent pour le prier de revenir sur sa décision. Tout pour sauver le bon renom de leur famille Apps. Le vieux alla les voir au bureau et dit qu'il consentait à remonter sur leur navire à la condition de le conduire dans la mer du Nord pour l'y saborder. Il avait perdu la boule. Gris de fer jusque-là, ses cheveux étaient devenus tout blancs en 15 jours. Et Mr. Apps, qui le connaissait depuis leur première jeunesse, fit semblant de ne pas s'en apercevoir. Hein, voilà de l'engouement et de l'orgueil. Ils sautèrent sur le premier bonhomme venu. C'eût été un scandale que la famille Apps ne pût trouver le capitaine. C'était, je crois, un bon vivant qui se maintint sur le bateau envers et contre tous. Il avait Wilmot pour second lieutenant, une espèce de braque qui affichait un parfait mépris pour toutes les filles. La vérité, c'est qu'il était affreusement timide, mais que l'une d'elles leva seulement le petit doigt en manière d'encouragement, il n'y avait plus à le tenir. Comme novice, déjà, il avait déserté à la suite d'un jupon, et il aurait été perdu pour toujours si son capitaine n'avait pas pris la peine d'aller le chercher dans une maison de perdition quelconque et de le ramener par les oreilles. Il paraît qu'un des chefs de la maison avait un jour exprimé l'espoir de voir bientôt cette brute de bateau se perdre en mer. J'ai peine, je l'avoue, à croire pareille chose, à moins qu'il ne s'agisse de Mr. Alfred Apps, dont on ne faisait pas grand cas dans la famille. On lui avait réservé une place dans les bureaux, où on le tenait pour un triste sire. Il filait à chaque instant pour aller jouer aux courses et rentrait ivre à la maison. On eût pu croire qu'un navire si inventif en tour pendable allait se jeter un jour à la côte par simple perversité. Ah, what ! La rosse était bâtie pour durer éternellement. Elle avait un nez pour flairer le fond. Jamin poussa un grognement approbateur. « La favorite des pilotes, hein ?» ricana l'autre. « Eh bien, c'est Wilmot qui a fini par la démolir. C'était bien l'homme voulu pour cela. Mais il n'en serait pas venu à bout, peut-être, sans cette institutrice aux yeux verts, cette gouvernante, ou ce que vous voudrez l'appeler, des enfants de M. et Mme Pamphilius. » C'étaient des passagers d'Adélaïde au Cap. Le navire, sorti du port, passa une journée à l'ancre dans la rade. Le capitaine, en homme hospitalier, avait, selon son habitude, invité à un déjeuner d'adieu un tas de gens de la ville. Il était 5 heures du soir quand le dernier canot quitta le bord, et le ciel était noir et menaçant au-dessus du golfe. Le capitaine n'avait aucune raison sérieuse pour appareiller ce soir-là. Mais comme il avait dit à tout le monde qu'il allait partir, il ne voulut pas s'en dédire. Seulement, après ses agapes, il ne se souciait guère de se risquer la nuit dans les détroits, avec un vent capricieux, et il donna l'ordre de serrer le vent au plus près, sous misaine et huniers inférieurs, jusqu'au matin. Après quoi, il regagna sa couche vertueuse. Le second était sur le pont et se faisait fouetter le visage par les averses. Wilmot le releva à minuit. La famille Apps avait, comme on vous l'a dit, une construction sur sa dunette. « Une vilaine machine blanche qui se dressait vers le ciel », soupira tristement Jermyn. « C'est bien cela, un capot pour les escaliers des cabines et une sorte de kiosque de veille combiné. » Les rafales de pluie fouettaient mon Wilmot engourdi de sommeil. Serré au plus près, le navire se dirigeait lentement vers le sud, avec la côte à quelques 3 milles sous le vent. Il n'y avait rien à craindre dans cette partie du golfe, et Wilmot alla se placer à l'abri des bourrasques, derrière le kiosque de veille, dont la porte était ouverte de ce côté. La nuit était noire comme un tonneau de goudron. Tout à coup, il entendit une voix de femme qui lui parlait dans l'oreille. Cette maudite gouvernante aux yeux verts avait depuis longtemps couché les gosses Pamphilius et ne pouvait pas dormir, probablement. Elle avait entendu sonner minuit, et le second était descendu dans sa cabine. Elle attendit un instant, enfila sa robe de chambre, se glissa à travers le salon vide et monta l'escalier du kiosque de veille. Elle s'assit sur le divan, près de la porte ouverte, pour se rafraîchir sans doute. Son murmure dut faire sur Wilmot l'effet d'une allumette enflammée dans son cerveau. Je ne sais pas comment ces deux-là étaient arrivés à être si bien ensemble. Je crois qu'il l'avait déjà rencontré quelquefois à terre. Je n'ai jamais pu tirer l'affaire au clair, parce qu'en racontant l'histoire, Wilmot ne disait pas deux mots sans lancer un affreux juron. Je l'ai aperçu un jour sur un quai de Sydney. Il avait un tablier de toile jusqu'au menton et un grand fouet à la main. Il était devenu toucheur de bœufs, trop content encore de trouver quelque chose pour ne pas crever de faim. Voilà où il en était arrivé. En tout cas, cette nuit-là, il était sur le pont, la tête passée par la porte et sur l'épaule de la fille, je suppose. Un officier de quart. Plus tard, l'homme de bar déposa qu'il avait, à diverses reprises, signalé l'extinction de la lampe de l'habitacle. Peu importait pour lui, puisque la consigne était de serrer le vent. « Je trouvais bien drôle, expliqua-t-il, que le bateau continua à arriver pendant les grains, mais je l'offais chaque fois pour le ramener aussi près que possible du vent. La nuit était si noire que je ne voyais pas ma main devant mes yeux, et la pluie me tombait à seaux sur la tête. » La vérité, c'est qu'à chaque rafale, la brise adonnait un peu et que le bateau finit par avoir progressivement le cap en plein sur la côte sans que personne s'en doutât. Wilmot avoua qu'il n'avait pas de toute une heure jeté un coup d'œil au compas. Il pouvait bien avouer. La première chose qui le réveilla, ce furent les cris de la vigie qui hurlait comme un possédé à l'avant. Il s'arracha des bras de la donzelle. « Qu'est-ce que vous dites ?»« Je crois entendre des brisants à l'avant, monsieur, » répondit l'homme en se précipitant à l'arrière avec ses camarades de veille, sous le plus abominable et aveuglant déluge qui soit jamais tombé du ciel, à en croire Wilmot. Pendant une ou deux secondes, il resta affolé, éberlué, au point de ne plus savoir de quel côté du golfe se trouvait le navire. Mais s'il n'était pas bon officier, il était marin tout de même. Il se ressaisit soudain, et les ordres voulus lui montèrent spontanément aux lèvres. « La barre au vent, toutes ! Brassez un ralingue, le grand hunier et le petit perroquet !» Les voiles prirent le vent. Il ne les voyait pas, mais il les entendit battre et claquer au-dessus de sa tête. « Inutile. La garce n'a pas obéi assez vite, » expliquait-il en tordant son visage osseux, cependant que son fouet de charretier tremblait dans sa main. On aurait dit que nous étions rivés sur place. Le frémissement de la toile cessa tout à coup au-dessus de sa tête. À ce moment critique, le vent, tourné à nouveau en une brusque rafale, emplit les voiles et lança avec violence la famille Apps à la côte par son bossoir sous le vent. Elle avait poussé la plaisanterie un peu loin pour une fois. Son heure était venue, l'heure, l'homme, la nuit noire, la bourrasque traîtresse, la femme fatale qui devait mettre fin à ses exploits. La brute ne méritait pas mieux. Les instruments de la Providence sont étranges, il y a une sorte de justice poétique. L'homme au complet de drap me regarda fixement. La première rangée d'écueils lui arracha sa fausse quille. Rip ! Le capitaine se précipita sur le pont et vit une femme courir affolée en robe de flanelle rouge autour du kiosque de veille avec des cris de cacatoès. Le second choc atteignit la brute sous la grande cabine, démolit les tambours et emporta le gouvernail, après quoi elle se lança à l'assaut des rochers en pente, y ouvrit sa coque et s'arrêta net en brisant son mâle misaine qui tomba par-dessus la lisse et forma un passe-avant naturel. « Pas de victime ? » demandai-je. « Personne, excepté cet animal de Wilmot, répondit le gentleman inconnu de Miss Blank qui cherchait des yeux sa casquette. Et mieux eût valu pour lui y rester. Tout le monde débarqua sans encombre. La tempête n'éclata que le lendemain, soufflant de plein ouest, et démolit la brute avec une rapidité extraordinaire. On aurait dit qu'elle était pourrie jusqu'aux moelles. Il changea de ton. La pluie a cessé, il faut que je reprenne ma bécane et que je file déjeuner chez moi. J'habite Herm Bay, et j'étais venu ce matin bavarder un peu. Il me fit un signe de tête amical et sortit vivement. « Savez-vous qui c'est, Jermyn ?» demandai-je. Le pilote de la mer du Nord eut un hochement de tête douloureux. « Perdre un navire d'une façon aussi stupide. Mon Dieu, pensez donc, gémit-il avec des accents lugubres, en étalant à nouveau, comme un rideau, son mouchoir humide devant la grille rouge. En sortant, j'échangeai un coup d'œil et un sourire, en toute correction, avec la respectable Miss Blank, demoiselle de comptoir aux trois corbeaux.